Le commandement de l'amour prend différentes formes dans l'Évangile et il prend en ce dimanche la forme du commandement de la vigilance, veiller, prier. Voici le commandement qui nous est donné d'entendre en ce début d'Avent, qui correspond à la façon dont Jésus se manifeste très clairement dans l'Évangile de saint Marc. Le premier trait par lequel Jésus se fait connaître, c'est son autorité. Dès l'appel des premiers disciples, où l'ordre de le suivre est aussi bref qu'efficace, « Venez à ma suite », aussitôt ils le suivent. Ils entrent dans la synagogue de Capharnaüm, et là, dit le texte, « Ils étaient frappés par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. » Et de fait, il n'était pas scribe, il avait été charpentier, il avait travaillé de ses mains, il savait la valeur des choses matérielles, il y était attentif, mais surtout, il règne sur les choses spirituelles et dans cette synagogue, il délivre un possédé et ils sont alors stupéfaits et se demandent « Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité !» Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est un enseignement qui est avant tout spirituel, avant d'être moral. Et l'autorité de Jésus est d'autant plus forte qu'il est humble, qu'il va laver les pieds de ses disciples pour leur dire ensuite « Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Seigneur, dominus en latin, qui a donné effectivement domination, mais qui a donné dominical le dimanche, où nous venons à la messe pour apprendre, on ne va pas dire tout de suite à obéir, d'abord à écouter. À écouter et à ne pas tout maîtriser. Alors l'autorité, pour s'exercer, doit s'expliquer, doit donner des explications. Et les deux verbes à l'impératif « prenez garde, restez éveillés » sont suivis d'un enseignement sous forme de parabole qui porte sur un aspect essentiel de l'autorité que nous appelons la délégation de responsabilité, la répartition des tâches. Le maître de maison, l'autorité locale, qui part en voyage, délègue son pouvoir à ses serviteurs, chacun dans le domaine qui est le sien. Il fixe à chacun son travail, il demande au portier de veiller. Et il faut pouvoir l'entendre parce que c'est notre situation, notre condition d'être responsable. Et c'est beau! Si chacun pouvait prendre conscience de ses responsabilités, en éprouver une joie, une fierté. Si chacun surtout pouvait se concentrer sur ses propres responsabilités, plutôt, dit la parabole, que de s'endormir, que de traîner, que de rêvasser, mais il y a peut-être pire, surtout aujourd'hui, plutôt que de contempler, scruter et surtout critiquer le travail des autres. À la fin de l'évangile de saint Jean, Pierre, voyant le disciple que Jésus aimait, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur ?» Et Jésus répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Est-ce là ton affaire ? Toi, suis-moi. » Voilà un bon rappel, voilà une bonne façon de, quand même de se rappeler des derniers mots de Jésus dans l'évangile de saint Jean. « Est-ce que c'est là ton affaire ? Toi, suis-moi. » Alors le départ du maître est l'occasion de responsabiliser de façon nouvelle ses serviteurs. Et s'éclaire ainsi la parole assez mystérieuse de Jésus au dernier repas lorsqu'il dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Il vaut mieux pour vous que je m'en aille pour que vous receviez l'Esprit Saint, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne sera pas en vous pour vous guider. Le don de l'Esprit vient intérioriser notre relation au Christ, au Seigneur. Et c'est ce qui se passe à la messe, où en communiant au corps du Christ, nous recevons la force de son Esprit. Le Christ vit en moi par la force des sacrements et par le don de l'Esprit Saint. Il y a un autre avantage non négligeable au départ du maître, qui est de réduire les phénomènes de cour auxquels aucune société n'échappe, pas même l'Église, quand s'agglutinent autour du chef tous les courtisans possibles. Assez tôt dans l'Évangile, assez vite dans leur formation, Jésus a envoyé ses disciples au-devant de lui pour leur apprendre à faire sans lui, pour lui mais sans lui, à agir en son nom. Il leur a appris à ne pas rester scotchés, ne disons pas comme des enfants, c'est pas ça, à ne pas rester scotchés comme des courtisans. Et il avait d'ailleurs appelé et choisi comme disciples, comme apôtres, des travailleurs qui disposaient d'expérience et d'un minimum de sens de l'autonomie, qui savaient, qui étaient conscients qu'il y a des résultats à obtenir. Alors évidemment, on pense à leurs disputes entre eux, elles existaient déjà en présence du Christ. On prétend que nous vivons aujourd'hui une crise de l'autorité. Une crise de l'autorité ou de l'obéissance, tout dépend de quel côté on se place. Pour passer mes journées avec Jésus, je ne le crois pas. Nous ne vivons pas une crise de l'autorité, nous vivons une crise de la cohérence. Et elle n'est d'ailleurs pas nouvelle parce que c'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens, à tous ceux qui ont reçu la loi de Dieu, ils disent et ne font pas. Ils ne cessent de mettre en évidence toutes leurs incohérences. Et saint Jacques, dans le Nouveau Testament, a une image tout à fait remarquable pour le décrire. Il dit que celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique est comparable à un homme qui se regarde dans un miroir, qui regarde son visage dans un miroir et qui s'en va en oubliant qui il est. Au contraire, celui qui écoute la parole pour la mettre en pratique, il trouvera son bonheur, il sera heureux d'agir ainsi. Nous trouvons notre bonheur en pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu. Juste après l'expulsion des vendeurs du temple, dans l'évangile de saint Marc, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent trouver Jésus et lui posent une question logique de la source, de la légitimité de son autorité. Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour faire ce que tu fais? Et la réponse de Jésus est géniale, qui fait éclater justement toute leur incohérence. Il leur dit, je vais vous poser une question, une seule question. Vous allez me répondre et ensuite, moi je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Et cette question, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il était du ciel ou des hommes? Alors, il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, mais alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en sa parole? Mais si nous disons des hommes, on va avoir des problèmes avec la foule parce qu'ils le tiennent vraiment pour un prophète. Alors, ils disent, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. La question que nous devons nous poser, nous, aujourd'hui, dans l'Église, c'est de savoir quand, nous, prêtres, évêques, laïcs, quand est-ce que nous devenons autoritaires? L'autoritarisme, c'est un autre nom du cléricalisme. Quand nous prétendons savoir ce qui est bon pour l'autre et que nous lui imposons sans faire appel à sa responsabilité. Quand nous sortons du cadre de notre mission, que nous intervenons de façon abusive, parfois intrusive, sur des sujets de vie privée, en cherchant assez souvent en plus à culpabiliser. Quand nous donnons des directives contradictoires qui rendent l'obéissance impossible. Quand nous ne pratiquons pas ce que nous croyons, quand nous n'appliquons pas la règle d'or qui est de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Quand, au plus profond, nous ne respectons pas la liberté intérieure de la personne. D'où vient l'autorité de Jésus? De l'unité absolue de son être. En lui, aucune contradiction, aucune incohérence. Il remplit les deux critères pour que nous puissions obéir avec joie, que dis-je, avec enthousiasme. Il veut notre bonheur et il respecte notre liberté.